projet.
Bonjour, bonjour à tout le monde et merci aux intervenants de m'avoir invité. Invité pour vous faire état de pas mal de choses qui ne vont pas vous surprendre quand je comprends ce qu'est cet auditoire. Mais ce sujet de l'inculture scientifique, je ne suis pas le premier ni le seul à constater qu'il pose un problème. Mais pour m'être confronté à travers de multiples conférences sur l'information du public, à propos notamment des risques environnementaux en général, et depuis longtemps, je constate que les choses ne s'améliorent guère. Alors, je voudrais vous faire part, non pas de mes réflexions, malheureusement, pour vous proposer des solutions, mais pour essayer au moins de comprendre, et c'est peut-être là que sont les prémices des solutions, essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à ce stade, en particulier dans notre société. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe ailleurs, on peut craindre qu'il en soit de même dans d'autres pays, mais j'ai l'impression, aujourd'hui, et à propos des techniques numériques qui évoluent à plus que grands pas, que l'Europe, et la France en particulier, ne sont peut-être pas très bien préparées à ce que nous risquons de subir sans y avoir trop contribué. Voilà. Alors, pour vous parler de ça, Madame la Présidente a bien voulu rappeler que j'étais un enseignant de la faculté de médecine. Ma discipline n'était pas une discipline très clinique, même si elle était un peu quand même. J'étais médecin de médecine nucléaire, responsable de l'imagerie à ce qu'on a appelé longtemps Val d'Aurel, qui s'appelle aujourd'hui l'ICM, Institut Montpelliérain de Cancérologie, avec instruction scientifique, puisqu'avant de faire médecine, j'avais fait un cycle de sciences. Alors, des constats, effectivement, des constats indéniables et inquiétants aussi. Et pour, comme je disais, essayer de comprendre pourquoi nous en sommes à cela, eh bien, j'ai essayé de, sur mon vécu, sur mes lectures, sur ce que chacun d'entre nous peut constater aussi, eh bien, j'ai caricaturalement considéré quatre sphères. Celle de nos décideurs politiques, qui sont quand même responsables de beaucoup de choses, à travers les réglementations, les dispositions administratives. Celle de la justice, qui, au-delà de ses responsabilités et de ses fonctions, je ne suis pas là pour faire une critique de la justice, ça serait bien incapable, mais en tant qu'expert près des tribunaux, j'ai pu constater quelques situations qui sont quand même inquiétantes par les prises des positions et des jugements rendus. Il en est de même, et je sais que parmi vous, il y a à différents niveaux des enseignants, on peut constater qu'aujourd'hui, le milieu de l'enseignement n'est plus ce qu'il fut. Pas qu'il était parfait, mais jusqu'aux années 70, ce que l'on savait, on l'apprenait dans les écoles, on l'apprenait à la faculté, certes par des lectures, mais aujourd'hui on sait bien que le milieu de l'enseignement n'est pas référent comme il l'a été longtemps. Et puis, la société, les simples citoyens que nous sommes, qui, on nous le dit, on nous le fait croire, serions devenus tous des experts. Aujourd'hui, le citoyen expert doit donner son avis. C'est de la sémantique. Mais, et bien sûr, il y a des interactions entre toutes ces catégories, ces quatre sphères, qui font que, effectivement, voilà, nous, ce que nous sommes au milieu, eh bien, nous le sommes en interaction avec ce que nous avons appris, ce que nous apprenons à tout âge, Aujourd'hui, on peut aller sur des MOOC et devenir étudiant. Il y a bien sûr ce que nous entendons et que nous vivons dans les décisions politiques, et puis, comme j'en faisais état, la justice. Et dans chacun des cas, le citoyen peut considérer que ce sont les références sur lesquelles il s'appuie pour juger de sa culture ou de son savoir. Alors, la sphère politique, je vais vous parler de quelques constats. Encore une fois, ce ne sont pas des solutions. Mais qui connaît l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ?
On l'aurait écrit même.
En place depuis 1983. Ce n'est pas un gadget d'il y a 6 mois. Discutez-en avec des responsables, des simples citoyens, des élus, même élus députés. Ah oui, oh, l'OPEX, oui, oui, bon. Alors que, effectivement, dans ma cervelle toute jeune que j'avais à ce moment-là, je me disais, enfin, une structure qui va peut-être permettre à nos élus, à nos parlementaires, sénateurs, bien sûr députés, de s'instruire sur les décisions à prendre. Totalement inexistante. Et pour ceux que cela intéresse, l'OPEC sort des rapports sur des questions de notre société, à caractère scientifique et autres, qui sont de très bons rapports, qui ont moins le mérite d'exister. Mais ils me font penser, plus localement ou même nationalement, aux rapports qui sont rédigés après des travaux dans les CESER, conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux, que personne ne connaît, qui font des rapports permettant aux décideurs politiques de peut-être choisir les meilleures solutions, ou même, dans certains cas, d'évaluer les décisions de ces mêmes politiques. Qui connaît les CESER ? Qui connaît le C ? Si, alors on le connaît, pourquoi ? Je vais être méchant. Parce que c'est un bon refuge pour les élus qui ne le sont plus. Que ce soit au niveau national, puisqu'il existe un conseil économique, social, environnemental, national. Ces structures, je peux en parler, j'ai été au CESER pendant 5 ans en tant que personne qualifiée. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais pour vous dire que les structures qui pourraient apporter un éclaircissement, notamment pour les décideurs de notre société, elles ont été mises en place, mais elles ne sont pas du tout référentes, ni du tout sollicitées. Le Conseil d'État, j'ai rien contre le Conseil d'État, mais c'est quand même une structure qui n'est pas rien, et j'ai marqué étonnant non à propos d'une anecdote que je vais vous rapporter. Une anecdote ne fait pas une règle générale, mais c'est quand même impressionnant. Il se trouve qu'en tant qu'expert près des tribunaux, j'ai eu à me préoccuper d'un patient, malheureusement décédé, qui avait séjourné à Mururoa pendant 7 mois en tant que vague-maître dans l'armée. À Mururoa, pour ceux qui l'auraient oublié, puisqu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui, c'est ce Pacifique au sud de Tahiti, où se sont pratiqués pas mal d'essais nucléaires, en tout cas les derniers essais nucléaires qui ont été faits, ont été pratiqués à Mururoa. Pour y avoir été en mission, et parce que ces sujets m'ont toujours intéressé, je puis vous dire que la surveillance, tant du personnel militaire que du personnel du commissariat à l'énergie atomique, elle est, pour ceux qui n'avaient pas la notion de cette surveillance radiologique, elle est beaucoup plus sérieuse que celle qu'on fait dans les hôpitaux pour les radiomanipulateurs, pour les médecins de médecine nucléaire, comme moi-même, mais surtout de radiologie, de radiothérapie, etc., etc. Et il se trouve que ce patient, à l'âge de 37 ans, avait séjourné, comme je vous l'ai dit, 7 ou 8 mois, et ses contrôles cumulés montraient qu'il avait reçu 1 millisievert. Alors le millisievert, c'est une unité qui permet de considérer le risque que l'on a d'avoir des conséquences à une exposition au rayonnement ionisant, qu'il s'agisse des rayons X, qu'il s'agisse de la radioactivité. Sauf que pour cette grandeur, on a une référence qui est quand même pratique, c'est la radioactivité naturelle. Nous vivons ici à Montpellier, par an nous recevons en moyenne 1,6 millisievert. Nous vivrions à Clermont-Ferrand, par an nous recevons 3,5, 6, 8 millisievert. Vous subissez un scanner radiologique, vous recevez 15 à 20 millisievert. Les premiers scanners délivraient jusqu'à 100 millisievert. Il se trouve donc que cette personne avait été exposée à 1 millisievert, en plus de l'exposition naturelle. Et il se trouve qu'à 70 ans, il a eu un cancer d'un rein, et le malheureux, il en est décédé 4 ou 5 ans après. La famille, largement sollicitée par un mouvement associatif, a dit « Il a été à Meurerois, il a un cancer, cherchez pas la cause, c'est cette exposition. » Moi, je n'ai pas à prendre parti sur les décisions d'un jugement ou d'un tribunal. Sauf que le ministre de la Défense, je vous raconte cette anecdote un peu longuement, mais elle est quand même très substantielle, vous allez le voir, Monsieur Morin, ministre de la Défense sous le mandat du président Sarkozy, comme il y avait plusieurs demandes, avait fait mettre en place une commission qui s'appelle le CIVIN, qui est la commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Donc déjà, vous voyez, l'intention était déjà avancée. Et cette commission, désignée par le ministre sur les recommandations des autorités scientifiques, il y avait des gens des académies, de sciences, de médecine, des gens comme moi, responsables de radiothérapie ou de médecine nucléaire, des radiobiologistes de référence. Eh bien, le Conseil d'État, quand le CIVEN a rendu ses conclusions en disant avec un millisievert, il n'y a aucune raison de faire une relation de cause à effet entre cette exposition et le cancer, même s'il est apparu longtemps après, ce qui n'est pas obligatoirement impossible, mais dire la probabilité, elle est de 0,00009%, quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, le Conseil d'État a cassé la décision du CIVIN et a condamné l'État à indemniser. Et pourquoi je suis au courant? Parce que c'est moi l'expert d'indemnisation, ce que j'ai fait. Mais je n'ai pu m'empêcher de faire remarquer au Conseil d'État, au-delà des aspects, encore une fois, juridiques, qui ne me concernent pas, de dire, mais en prenant cette décision, vous allez devoir indemniser l'ensemble de la population. Nous allons tous mourir un jour. Et nous aurons tous reçu, médicalement parlant, pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant que médecin, tous les jours, j'ai vu des patients à qui je proposais une exposition de quelques dizaines de millisieverts. Dieu merci, même si un jour ils doivent tous mourir, j'espère que ce ne sera pas à cause de ça. Mais vous voyez qu'une instance de référence comme un Conseil d'État est complètement, excusez-moi l'expression, à côté de la plaque. Donc quand j'incrimine, l'ENA, et c'est pas une gloire, j'ai rien contre les énarques, j'ai même des amis énarques qui sont des gens très bien, mais ils avouent qu'ils n'ont aucune culture scientifique. Aucune culture scientifique, et je sais s'ils en savent des choses. Mais la culture scientifique, et comme on le disait avec certains d'entre vous, le mot culture scientifique, c'est à part, c'est pas culture humaine, oui, savoir les états d'âme, etc. Et effectivement, malheureusement, c'est une généralité dont il faut se méfier, mais indéniablement, en matière de science, nos décideurs politiques sont habituellement, malheureusement, dans notre pays, d'une grave inculture, et certains disent abyssale. Pourquoi? Parce que la science physique n'a pas été. Alors, si j'étais le seul à mener ce constat, mes remarques seraient d'un intérêt limité, mais Étienne Klein, qui est une personnalité très connue et très écoutée, directeur de recherche, docteur en philosophie, sciences, etc., souvent caricaturé, la culture scientifique a été exclue du savoir commun. Ça sera toute la durée de mon exposé et le même refrain. Et effectivement, vous voyez, depuis deux générations, les sciences sont absentes de la formation des élites politiques. Témoignage qui pourrait être original, malheureusement ce n'est pas le seul, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des gens qui réagissent. Je prends Cédric Viviani parce qu'il est connu de par ses qualités de mathématicien, qui dit « la législation a besoin d'un regard scientifique pour prendre de bonnes décisions dans notre société ». Plus récemment, j'ai lu ça de Agnès Buzyn et j'ai bien aimé ce qu'elle disait. En politique, les connaissances scientifiques se portent comme une croix. Et je crois que c'est significatif. Et d'ajouter, l'ignorance protège, mais la connaissance oblige. Elle dit, moi je veux bien être ignare de certaines choses, mais je ne peux pas souscrire à ce fait que la Terre est plate. Voilà. Donc, effectivement, pourtant dans notre société de plus en plus technologique, nous le voyons bien, je me répète en fonction de ce que dit Cédric Villani, eh bien, la majorité, pas toutes bien sûr, mais la majorité des lois devraient être argumentées par des données scientifiques. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? D'avenir, le numérique, la transition énergétique, les problèmes écologiques. Bon, autant de choses, c'est un des rares journalistes à dénoncer, il dit « l'écologie comme la science est bien trop sérieuse pour que ce soit les politiques ou les journalistes qui s'en occupent ». Mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de vrai dans cet aspect. Et malheureusement, voilà. Alors pour la justice, sous le fait de la pression populaire, et pour préférer la paix sociale, le jugement prévaut souvent, pas toujours, heureusement, sur les communautés des experts, prévaut sur la communauté des experts et leurs compétences. J'ai eu beaucoup de dossiers à traiter, et dans lequel, s'il y en a parmi vous, ils le savent, des experts, on vous demande de démontrer si en l'état actuel des connaissances, il est possible d'établir une relation de cause à effet. C'est dans la loi, c'est ce qui est transcrit dans toutes les missions que reçoit un expert. Mais dans certains cas, sur des cas de rayonnement électromagnétique, regardez les campagnes contre le compteur Linky. Alors je ne vais pas vous raconter pendant 3 jours ce qu'est le compteur Linky, mais les gens qui refusent le compteur Linky à propos du risque de ces émissions, mais il faut qu'il n'y ait plus d'électricité. Parce que les circuits électriques qu'il y a dans un habitat sont bien plus dangereux que ceux qu'ils reprochent à ce compteur Linky. Alors, il y a un autre aspect qui peut être discuté, c'est pas le mien, de domaine, c'est de dire oui, mais c'est une intrusion dans notre vie, puisqu'on sait à quelle heure je vais prendre ma douche, on sait à quelle heure je mets mon lave-vaisselle ou ma machine à laver ou que je repasse, etc. Pour ce qui est des lignes en tension, des relais d'antenne GSM, la téléphonie, qui est plusieurs fois sollicitée, mais avec des choses extravagantes, sans citer surtout de noms, mais quand même cela on peut le citer, les compagnies sont très ennuyées, les compagnies telles que Bouygues, SFR, etc., parce que quand vous avez des agriculteurs qui disent « voilà, j'avais un élevage, toutes mes bêtes sont mortes ou ont été malades ou les poules ne pondent plus, etc. », c'est depuis qu'il y a l'antenne. Qui va expertiser ce type de situation? Et ce type de situation, ça veut dire que ça peut représenter pas mal d'argent. Eh bien, on fait appel à des géobiologistes, que vous connaissez sans doute, peut-être, qui commencent à se définir, la géobiologie est une science. Et ce qu'ils ont dit d'après est assez en contradiction avec la définition. Bon, mais on en est là.
Qu'est-ce que c'est,
un géobiologiste ? Les géobiologues sont les gens qui considèrent que l'état de la nature du sol, la présence ou pas de veines d'eau, la présence de telle orientation, de telle composition, a un impact sur la santé. Et aujourd'hui, si vous tapez, alors je la définis peut-être que très sommairement, d'autres peut-être pourront mieux la définir que moi, mais ce sont des aspects qui ne reposent sur aucun substrat scientifique. Et là, dans le cas en question, la personne s'est mise à parler du radon, le géobiologue, pour expliquer que c'était le radon sans doute, et ce qu'il écrivait était à mourir de rire, mais pas tant que ça d'ailleurs, ou d'effroi, d'avoir des sueurs froides en voyant ce que pouvait écrire quelqu'un qui est fonctionnaire payé par le ministère de l'Agriculture. D'accord ? Quand vous vivez des choses comme ça, moi je vous répète, je n'ai pas une analyse globale, mais à travers des expériences personnelles, bon, sur les OGM, n'en parlons pas, sur les glyphosate, vous voyez bien tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, les interdictions, on demande au maire de faire une pétition pour savoir si on peut de 5 à 10 mètres, 50 mètres, etc., etc. Le lévothyrox, pas s'appesantir trop longuement, mais pour ceux que ça intéresse, en quelques mots, le lévothyrox est donc un substitut de la production de la thyroïde. On donne du lévothyrox aux personnes qui n'ont plus de thyroïde, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils n'en ont plus, soit parce qu'il y a eu une thyroïdite chronique d'Hashimoto qui fait que la thyroïde ne fonctionne plus, soit parce que pour des raisons de nodules, on a enlevé une partie ou la totalité de la thyroïde. Et ce lévothyrox, il se trouve, si je veux je vous raconter cette anecdote sans prendre trop de temps, il se trouve que l'agence du médicament s'est rendue compte que la qualité du lévothyrox variait avec le temps, qu'il était mal, la molécule active était mal, on va dire, faire simple, conservée tout au long de la durée du médicament que l'on prend. Et ils ont modifié le lévothyrox, et cette modification du lévothyrox a mal été perçue. Donc, effectivement, on peut en conclure qu'il y a eu un manque d'informations. Mais informations vont dire que, voilà, on a changé, mais, et en fait, depuis le temps qu'on en a parlé, il n'a pas été objectivable d'attribuer des anomalies au nouveau lévothyrox. Mais la vox populi ne disait pas ça, surtout quand elle est relayée par des... Pardon ?
L'hypersensibilité que vous avez sauté.
L'hypersensibilité que j'ai sauté, pardon, pour revenir en arrière, si je peux... Non, alors attendez, précédente. Bon, pour l'hypersensibilité, non, c'est encore en arrière.
C'est là.
Voilà. Voilà. Pour l'hypersensibilité, les médecins vous disent, on a beau chercher, on a beau trouver, il n'y a aucune manifestation spécifique de l'exposition. Les troubles sont polymorphes, souvent correspondent à des personnes qui sont en déséquilibre, plus éloignées de l'homéostasie, qui présentent dans certains cas des symptômes, mais reste à pouvoir ou pas les attribuer. Et aujourd'hui, médicalement parlant, l'électro-hypersensibilité pour un médecin n'existe pas. Il a devant lui un patient qui a un problème, certes, des gens, mais quant à l'exclure de l'exposition à ces rayonnements électromagnétiques, l'exposition ou pas l'exposition, plusieurs études ont été faites à 20%, il n'y a pas de différence. Et là, les juges ont rendu des jugements disant oui, cette personne est électrosensible, il faut l'indemniser de temps, etc. Contre, si vous voulez, les connaissances. Bon, pour l'enseignement, je ne vais pas m'éterniser parce que, mais quand même, Bien sûr, l'enseignement n'est plus référent, il est largement concurrencé par l'accès à tout ce qui est possible, des fois avec de bonnes raisons, hein, parce que c'est vrai qu'on peut trouver des choses très pédagogiques sur Internet, mais on peut y trouver aussi n'importe quoi, ce qui n'arrange pas d'ailleurs les enseignants, qui sont souvent maltraités, et parfois, de même, des fois atteints par une dérive idéologique. Un enseignant parlant du nucléaire, il y en a qui se l'interdisent. Il y a des enseignants qui ont dit « moi, je ne veux plus prononcer le mot nucléaire ». Parce qu'on est pour ou on est contre le nucléaire. On ne sait pas ce que c'est, mais on est pour ou on est contre, idéologiquement. Résultat de tout ça, ça c'est un constat que chacun peut faire, si vous consultez le classement PISA, qui est un classement fait par l'OCDE, des enseignements dans les pays développés, eh bien la France a perdu 10 places en 10 ans. Et nous sommes 26e, notamment dans les disciplines scientifiques. C'est un état, et malheureusement, aujourd'hui on le voit bien, quand vous regardez autour de vous, mais plus globalement, parce que c'est quand même plus important, eh bien on voit que beaucoup de gens se dirigent vers la communication, qui est importante bien sûr, les sciences humaines et sociales, qui sont bien sûr aussi importantes, les écoles de commerce, oui bien sûr, même si le commerce, un jour, il faudra peut-être le maîtriser par une diminution du gaspillage que nous faisons, sans quoi je ne suis pas sûr que notre planète supportera, enfin bon ça c'est une idée peut-être un peu personnelle, mais je crois qu'elle est assez partagée. Par contre, on le sait bien qu'aujourd'hui, nos sociétés, demain, tout à l'heure, vont être gérées indéniablement par des applications technologiques des sciences, et notamment du numérique, et bien sûr de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est peut-être un peu la tarte à la crème, mais quand on s'esprit de la chose, on peut se poser quand même des questions. Et des questions au sens de ce qui se passe ailleurs et qui ne se passe pas chez nous, au sens en tout cas de la préparation. Moi je ne suis pas pour dire que l'intelligence artificielle c'est bien, tout va être bien, on va vivre mieux, etc. Je n'en sais rien, comme la plupart des gens bien sûr. Mais ce que je crois, parce qu'il y a suffisamment de témoignages, nous allons vivre avec. Et aujourd'hui, pour toutes les raisons que j'évoque, nous ne sommes pas préparer d'une part à participer et peut-être mal préparé, et nous le vivrons peut-être difficilement parce que nous le subirons malgré nous. Ça risque d'être un peu ça. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui dans les écoles, les disciplines scientifiques ne sont pas très courues. Hein. Quand on regarde les programmes, et on vous le dit, les Français prennent moins de plaisir dans l'apprentissage des sciences qu'ailleurs, et les filles encore moins que les garçons. En fait, bon, science ou pas science, ce qu'il y a de sûr, nous le savons bien, les emplois vont se modifier, les jeunes auront sûrement différentes qualifications à assumer dans leur existence. Donc, s'il y a un secret pour le futur, ça sera d'apprendre à apprendre, hein, parce que indéniablement, il sera important de savoir s'adapter à toutes les choses nouvelles. Bon, ce que je vous dis là, c'est pas nouveau. D'Ormesson le disait, s'il fallait le répéter, entre autres, ce qui a le plus changé le monde, c'est pas la philosophie depuis le 19e siècle. Je ne dis pas que la philosophie n'a pas son importance, mais ce qui a le plus changé le monde, c'est quand même la science. Alors, le citoyen, eh bien, le citoyen, indéniablement, c'est un constat, et notamment valable en médecine, où la confiance est très importante. Quand il n'y a pas de confiance dans la relation patient-soignant, les choses ne se passent pas obligatoirement très bien. Eh bien, aujourd'hui, indéniablement, il y a une défiance vis-à-vis de la science. Il y a des conflits scientifiques, mais à la réflexion, et je crois que le nucléaire en est là une caricature, ce n'est pas la seule, elle s'est largement, malheureusement, enrichie, ce sont devenus des conflits plutôt idéologiques que des conflits légitimes, par ailleurs, de débats entre spécialistes pour savoir quelles sont les meilleures solutions. Récemment, j'étais en tant que membre d'une commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques nucléaires dans une réunion qui était préparée par la Commission nationale du débat public. La réunion n'a pas pu avoir lieu. Et ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a des opposants. Il y a des opposants parce qu'on est pour ou on est contre. Bon, c'est ça. En fait, aujourd'hui, et là je m'adresse à nous, à chacun de nous, parce que nous ne sommes pas tous des petits saints, même si nous avons peut-être un peu plus de réflexion que d'autres, mais il est intolérable aujourd'hui de ne pas tout savoir. Je veux tout savoir, tout et tout de suite. Et en définitive, voilà, c'est l'absence de réflexion, l'absence de prise de recul sur un sujet. Non, je veux le savoir tout de suite. Et en définitive, on assiste à une dictature des minorités. Quelque part, c'est une perte de la démocratie. On voit bien aujourd'hui que les opposants, notamment, je ne parle pas sur des raisons politiques, il est normal qu'il y ait des débats, et sur la politique, on peut avoir des approches différentes, on peut avoir des approches différentes aussi sur des applications technologiques de la science, on est bien d'accord. Mais là, ce n'est même pas du tout le cas, c'est directement, plutôt, un combat idéologique, un combat discussion entre spécialistes, ce qui est légitime. D'autant qu'aujourd'hui, les informations à caractère technologique et scientifique sont de plus en plus complexes. C'est extrêmement difficile de maîtriser, même dans son domaine, toute l'évolution des connaissances et de l'importance de leurs applications. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il devrait être obligatoire de tout savoir, puisque je vous le dis, l'expert est citoyen. Et vous, qu'en pensez-vous? Réagissez. Vous voyez un truc à la télé, une émission, surtout ne réfléchissez pas. Qu'en pensez-vous? C'est une opinion, c'est pas une raison. Sauf que l'humilité de l'ignorance que nous devrions tous avoir, que nous avons, moi, je ne connais rien en astrophysique. Et j'ai honte parce que j'y connais rien. Je n'y connais rien. Bon, donc, si je peux m'instruire, je m'instruis. Ça me passionne, ça ne me passionne pas. Bon, et chacun de nous, bien sûr qu'on ne peut pas tout savoir en tout. Mais aujourd'hui, au monde Deus que nous sommes, nous n'acceptons plus d'être ignares. Pour moi, l'humilité de l'ignorance conduit. Parce qu'elle est devenue inacceptable. Il est inacceptable de ne pas savoir. Donc, j'ai une conviction. Conviction, je ne suis pas philosophe, mais quand on regarde ce qu'en pensent certains philosophes, en tout cas, le propre du philosophe est de douter et point d'avoir de conviction. Je dirais que c'est aussi le propre du scientifique. Il s'appuie certes sur des connaissances, mais il y a toujours de l'incertitude. Puis Nietzsche va même plus loin, mais on peut le comprendre, la conviction est pire que le mensonge. Parce que la conviction, c'est l'absence de toute réflexion. Je suis convaincu que je ne réfléchis pas. Le mensonge, oui, si je lui pique de l'argent, je pourrais m'acheter. Bon, je ne dis pas que c'est bien, mais voilà. Alors, effectivement, que notre démocratie a évolué avec de tels comportements, et je vous fais état de quelque chose que j'ai entendu récemment de monsieur Finchelstein, qui est président ou directeur de la Fondation Jean Jaurès, et qui, dans un discours, nous expliquait, à l'occasion d'autres circonstances, que la démocratie, notamment en France, pouvait facilement s'estimer avec les différents votes, du vote présidentiel au vote des majorités, des partis politiques, etc. Et il est en fait. Moi, qui suis philosophe, disait-il, j'ai quand même un peu appris, quand j'étais petit, en classe, en sciences, qu'il y avait différents états de la matière, et que ces états, ils étaient solides, que la matière était structurée, fortement reliée, molécule à molécule, structure à structure, etc., difficiles à modifier, rigides, etc. Et puis, il argumentait par les votes des présidentielles, consécutives. Et puis, la démocratie, dit-il, est devenue plutôt liquide, malléable, fluide, à partir de 80-81, des cohabitations, des gens qui varient d'un parti à un autre, etc., etc. Et il dit, depuis 2016, la démographie est gazeuse. Sauf que, disait-il, une démographie gazeuse peut vite devenir dangereuse quand on la compresse. Elle peut conduire à l'explosion, à la violence, etc., etc. J'ai trouvé cette image assez jolie, parce que, effectivement, chacun étant plus ou moins homo deus, eh bien, moi je fais ce que je veux, après tout, c'est mon intérêt, c'est ma retraite, c'est ma je sais pas quoi, et surtout qu'on n'y touche pas, ou si il faut qu'on la touche parce que comme c'est comme ça. Voilà. Alors, effectivement, dans les auditoires qui ne sont pas préparés, peut-être comme le vôtre, dites-toi, il nous raconte n'importe quoi, il prend des cas exceptionnels qui montrent. Moi, je pense que ces cas sont assez exceptionnels, peut-être, mais ils sont assez révélateurs. Ils sont révélateurs de ce que nous sommes et des difficultés qui sont les nôtres. Alors, si nous rentrons un peu plus maintenant dans le détail, pour comprendre encore un peu plus ce qui se passe, eh bien, l'image, l'opinion, l'idéologie se fixe bien avant que la connaissance puisse matérialiser le message. C'est le propre de l'acquisition, c'est le propre du jugement, c'est le propre de la réflexion. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je disais en discutant avec deux ou trois des personnes à qui j'étais, qu'aujourd'hui, le temps a vraiment changé. La dimension du temps a changé. Certes, il y a 24 heures par jour. Certes, on essaie de dormir 6 à 8 heures par jour, tous. Mais alors, bon, le temps, il n'a pas changé. Si, ce qui a changé, c'est la somme de sollicitations que nous recevons. Et comme nous sommes en permanence sollicités, en permanence, et vous, qu'en pensez-vous ? Et réagissez. Sur Twitter, vous avez vu, il a dit ça, deux minutes après, on a réagi, etc. Où est le temps de réflexion ? Où est le temps d'analyse ? Où est le temps de se faire une idée ? Ce qui ne veut pas dire que le temps changerait tout, mais indéniablement. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe ? C'est une diapo que j'avais faite dans d'autres circonstances, mais vous voyez que lorsqu'on parle de risque, puisque c'est souvent les connaissances, quand elles font débat, c'est parce que souvent, il y a un impact sur la santé, aujourd'hui sur l'écologie, donc voilà. Alors, oui, il y a un risque, on en prend conscience, on en a légitimement une perception subjective, avec beaucoup de symbolisme sur la perception, et malheureusement, peu de filtres. C'est ce qu'on nous reproche, qu'on devrait se reprocher quand on est sur Internet, d'avoir un peu un avis critique. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? C'est classique, on a peur. Mais la peur, c'est pas rien la peur. La peur, c'est une souffrance. Une souffrance qui, par les comportements que vous avez, vous voulez faire partager aux autres. Vous n'avez pas peur, vous, avec tout ce qu'ils nous disent là ? Mais ça me fait peur, moi. Et donc, effectivement, on en est à la rumeur, le tout amplifié par l'espace des médias, l'espace public. C'est, peut-être que des sociologues seraient mieux le magnifier que moi. Mais en fait, bon, d'un autre côté, sur ce risque, quand l'expert en a connaissance, ben, il essaie de l'analyser, de le quantifier, de le qualifier, de le maîtriser, de préconiser des normes, de dire, ben voilà, oui, c'est dangereux, c'est dangereux d'avoir, je ne sais pas moi, du tritium dans de l'eau buvable. C'est dangereux d'avoir des nitrates dans l'eau. Et vous savez qu'on prend des facteurs de qualité, de sécurité. Le seuil que va être la norme n'est pas le seuil du danger. Et par exemple, pour les nitrates, les spécialistes savent qu'à part pour les enfants, pour les adultes, les nitrates, c'est epsilon, c'est rien. Bon. Voilà, on maîtrise. Mais de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a ça, et entre les deux, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, le mur de l'incommunicabilité, le décalage entre la vox populi, le public, et le milieu de la connaissance et les experts. Alors, bien sûr, la science ne se démontrerait plus, elle se décréterait, et aujourd'hui, la crainte serait même devenue citoyenne. Comment? Vous n'avez pas peur? Vous avez vu, à Rouen, il y a eu un incendie, il y a des fumées noires, mais vous n'avez pas peur, on va tous en mourir, avant de savoir ce qu'il en est. Oui, bien sûr qu'il y a une pollution indéniable. Ceux qui ont entendu les actualités, il y a beaucoup de suie, il y a beaucoup de... etc. C'est pas très bien, hein. Mais si vous voulez, la crainte est devenue citoyenne. Et Luc Ferry, bon, dans un de ses multiples ouvrages, dénonce tout ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la lueur du siècle des Lumières sont en cours d'extinction. C'est le même constat que je répète avec des mots différents, mais indéniablement, ce sont des constats. Et pour moi, la démocratie est devenue une doxocratie. Doxocratie, c'est quoi? C'est l'expression des sondages, de l'opinion. Regardez toutes les semaines dans les hebdomadaires, dans la plupart des quotidiens, mais surtout des hebdomadaires, parce qu'on n'en fait pas un tous les jours, mais au moins tous les mois. Ah, la cote d'un tel a monté. Ah, la cote d'un tel est descendue. Ce sont que des opinions menées par des gens instruits de ces techniques, des sondages quotidiens, des sondages. Mais qui fait l'opinion? Ce sont les médias. Ce sont les réseaux aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai inventé ce mot qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui pour moi correspond à notre état de société actuel. Nous sommes en toxomédiocratie. Ce n'est plus de la démocratie, au sens tel qu'elle est définie habituellement à ma connaissance. Alors, cette dérive, ce décalage, on peut essayer quand même de le comprendre, mais je vais répéter avec des mots différents et avec des arguments un peu variés, mais en fait, quand il y a un phénomène objectif, prenons des choses simples, comme la gravité, la pesanteur, la radioactivité, etc., ce sont des phénomènes objectifs. C'est, bon, on ne va pas discuter, la pomme, elle tombe, et on sait bien qu'on peut dire, oui, elle tombe parce qu'elle aime la Terre et qu'elle veut se reproduire. Mais bon, on peut dire aussi que même si ce n'est pas une pompe, ça peut être n'importe quoi, etc., etc. L'aspect subjectif, il est dû à la perception que l'on a d'un phénomène, à la conscience ou à la croyance. Quand on ne s'explique pas, ah, il ne pleut pas, on va prier le bon Dieu pour qu'il pleuve. Et on ne sait pas pourquoi, donc on se réfugie comme on peut. Bon. Mais si cet aspect subjectif, ce qui a toujours été le cas, les gens n'ont pas toujours connu les règles de physique, de chimie qui nous entourent. Mais si cet aspect subjectif reste individuel, qu'elle change ou qu'elle ne change pas, ce n'est pas grave pour la science. Par contre, ce qui a changé, ce sont aujourd'hui les considérations intersubjectives, la conscience subjective de plusieurs individus qui communiquent, comme je vous l'ai dit dans la plaque, hein, en cercle vicieux. J'ai peur, je ne veux pas être seul à avoir peur, parce que je souffre, je veux que les autres partagent ma souffrance, mais si les autres souffrent, c'est qu'il faut avoir peur, et la rumeur s'installe, et le cercle s'amplifie. Donc, ce sont les considérations intersubjectives qui sont devenues majeures, et aujourd'hui, nous sommes dans des États qui veulent légitimement conserver une paix sociale. Mais est-ce le prix à payer? Que ce soit la justice, que ce soit le politique, il dit, eh ben oui, bon, on va respecter la paix sociale pour... Alors, Il y a aussi maintenant, je ne suis pas le seul à le dire, je l'ai déjà explicité, je ne vais pas y revenir, des considérations idéologiques, de partis politiques, de religions, mais tout ça est toujours dépendant des médias et des réseaux sociaux. Alors, on pourrait dire, oui, mais des gens disent, avant c'était mieux. Mais avant, ce n'était pas du tout comme ça. Avant, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos parents? Ils ont adoré le progrès. Et ce progrès ne s'est pas fait sans effet secondaire, si je puis dire, pour parler en tant que médecin. Hein, parce que la machine à laver, la machine à coudre, l'hygiène, le déplacement, la télévision, etc. Aujourd'hui, notre société vénère le principe de précaution. Le principe de précaution à propos des éléments figurant des risques qui existent, mais dont l'importance n'est jamais explicitée. C'est ce que je vais dire dans une ou deux des plaques suivantes. Mais aujourd'hui, malgré des appels à dénoncer des choses comme cela, moi, quand je lis, il est indispensable que des scientifiques et ingénieurs puissent s'exprimer, être écoutés dans leur rôle d'expertise. L'existence même de la démocratie est menacée si on n'est plus capable d'entendre les expertises, même contraire à la pensée dominante. Qui dit ça? Je me demande comment Libération a osé publier ça le 15 octobre 2013. Qui dit ça? Qui signe ce papier, sûrement écrit par M. Badinter, Chevènement, Juppé, Roca, pour prendre quatre hommes politiques dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui ont eu quand même des responsabilités et sans doute des personnalités assez responsables, même avec des avis qui peuvent être différents sur d'autres aspects. Plus récemment, les experts sont de plus en plus considérés, une démocratie sans experts pourra la catastrophe, car elle laisse le champ libre à toute croyance, c'est la défaite de la raison, Jean Tirole, en 2014. Vous voyez que tout ça, peut-être vous le savez, vous l'avez lu, mais je ne comprends pas que, malgré cet appel, qui ne sont pas trop reliés, eh bien, on ne soit pas capable de tirer la sonnette d'alarme. Oui, nous devrions être interpellés, bien sûr, mais ça, c'est un ouvrage que je vous conseille de lire si vous connaissez l'auteur, Gérard Brunner, qui fait partie d'ailleurs de l'AFIS, Association française d'information scientifique, avec la revue Science et Pseudosciences, lire La démocratie des crédules, et vous verrez que nous faisons tous partie d'une démocratie des crédules, c'est-à-dire de la croyance. Caricature de l'avènement du phénomène platiste. Quand vous entendez que 8 à 10% des Français, il n'est pas facile de les forcer à croire que la Terre est plate. Nous sommes en 2019. 8% des Français. Bon. Alors oui, elle est à reconquérir. Et là, toujours une personne de l'AFIS, en tout cas que j'ai connue à l'AFIS, je vous conseille de lire Virginie Tourné, qui a lancé un appel solennel, qui n'était pas de 15 pages, qui était de 2 pages dactylographiées, avec une signature très importante qui a été refusée, alors qu'il y a des votes à l'Assemblée qui iraient dans le bon sens, mais personne n'en parle parce que ça n'intéresse pas, ça ne se vend pas. Voilà, eh bien, l'obscurantisme est devenu malheureusement triomphant. Nous avons peur de tout, et en particulier de tout ce qui a effet sanitaire. Je le disais tout à l'heure à quelques-uns parmi vous. Parmi les fausses nouvelles, les plus importantes concernent le domaine de la santé. C'est des revues qui ont été faites par les gens qui analysent. Alors, oui, le catalogue que l'on nous cacherait, moi, aujourd'hui, je dis qu'on assiste à un vrai détournement de mineurs. On nous parle des risques de la radioactivité, des lignes en tension, des téléphonies mobiles, des OGM, enfin, tout ça, je ne vous le répète pas, vous le savez. Mais quels sont les plus graves problèmes que nous avons au niveau alimentaire, par exemple? Ah, mais toutes ces substances, les additifs alimentaires, les conservateurs, tout ça, on va en mourir. Non. Ce dont on meurt, c'est du sucre et du sel. du sucre et du sel, ton humeur. C'est pas... Et à forte dose. Enfin, quand je dis, on meurt à grande quantité. Alors, je ne dis pas que tout ça est négligeable, qu'il ne faut pas s'en occuper, mais on se préoccupe des mineurs et on ne voit plus les choses les plus importantes. Oui, c'est un détournement. Voilà, donc, et même cette doxomédiocratie, pardon, dont je vous disais, elle est devenue en soi un risque sanitaire, parce que comme il existe le risque, pas le risque, l'effet placebo, prenez cette gélule, vous allez voir, ça vous fera du bien. C'est de la farine, du sucre, un grand verre d'eau. Ah, je me sens mieux, c'est vrai, j'ai plus mal à la tête, c'est bien. Mais aujourd'hui, installer un simulacre d'antenne relais de la téléphonie, tout le monde a mal à la tête, même si elle n'est pas installée. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. On est victime de ceux qui n'existent pas, mais de ceux dont on a peur. Racontez encore une anecdote, une personne qui m'appelle pour ce type de problème, et au bout d'un moment, je l'interromps, une femme qui avait l'air très bien, qui raisonnait, m'a dit « Oui, je sais, c'est pas très objectif », je lui dis « Comme ça ?» Et depuis quand vous avez du psoriasis ? Elle me dit « Quoi ? Pourquoi vous me parlez de ça ?» Ben, je lui dis « Parce que ça ne m'étonnerait pas que j'en ai, que vous en ayez. » Elle m'a dit « Oui, je suis couvert de psoriasis. » Bon, ben, il y a peut-être d'autres causes. Mais je veux dire, voilà, sauf que elle l'attribue à des effets mineurs. Bon, oui, toujours les mêmes mots pour... alors, je vais avancer. Cette plaque, la dernière importante en tout cas, quand on regarde pourquoi cette révolution scientifique, en définitive, la révolution scientifique, ça a été la découverte de notre ignorance. Il a fallu abandonner des croyances, des convictions pour l'incertitude. Et en définitive, la révolution scientifique n'est pas une révolution du savoir, mais bien une révolution de l'ignorance. C'est-à-dire, quand on accepte l'incertitude, on veut chercher à comprendre, et l'empressement, aujourd'hui, à admettre l'ignorance, je ne sais rien, mais ça me convient, en gros, c'est ça, eh bien, à donner l'empressement à admettre l'ignorance, non, c'est l'inverse de ce que je veux dire, pardon, à donner à la science un dynamisme, une curiosité, comprendre, savoir, admettre, etc. Et aujourd'hui, c'est plutôt le refus de l'ignorance. Alors, terminé par deux ou trois clins d'œil, Einstein, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, d'une certaine façon, vous pouvez le comprendre, deux choses sont infinies, m'a-t-il dit, ce que vous savez aussi, l'univers et la bêtise, et encore que pour l'univers, je n'ai pas la certitude. Et son collègue, non moins important, la plus grande menace pour notre humanité est elle-même. Hein, c'est pas les moments, les avancées technologiques, les robots peuvent nous faire basculer dans le néant beaucoup plus vite que prévu. Voilà, donc, n'attendons pas que d'autres gèrent pour nous le transhumanisme qu'on nous annonce pour une quinzaine, une vingtaine d'années. Essayons donc de nous structurer, de nous informer, à besoin de nous laisser faire. Mais avec tout ceci, quand même, gardons l'espoir, mais de grâce, arrêtons d'avoir peur, car nous voyons bien que c'est de la peur que naissent les comportements inadéquats. N'éteignons pas les lumières du futur. Oui, intéressons-nous aux technologies nouvelles, c'est passionnant. Oui, il y a des risques, oui, il y a des bénéfices. Et j'ai repris là des paroles de mes maîtres. Voilà, et pour terminer, je mets à votre connaissance, qui est une expression de cette préoccupation, un ouvrage, certains le connaissent, il est à votre disposition, moyennant une somme que je reverse à la Ligue contre le cancer. Il s'agit d'un thriller. Alors, dans un thriller, il faut aimer ça, il y a de la violence, il y a de l'amour, il y a des policiers, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a du sexe, mais il y a une gestion d'un état de attentat nucléaire. Voilà, pardon peut-être d'avoir un peu dépassé le temps, et autant que je le peux, je reste à disposition pour des questions, des interpellations. Merci beaucoup de votre attention.